discussion du soir. Les discussions du soir, Frédéric Worms.
Ce soir, je suis très heureux de recevoir Pape Ndiaye, professeur d'histoire à Sciences Po et auteur notamment d'un livre important, La Condition Noire, en 2009, désormais en poche, en folio. Bonsoir Pape Ndiaye.
Bonsoir Frédéric Worms.
Je suis très heureux de vous recevoir ce soir sans lien direct avec ce qu'on appelle une actu, avec des guillemets, un mot raccourci et entre guillemets, c'est-à-dire non pas forcément pour parler d'une seule de vos publications récentes ou d'un événement auquel vous auriez été particulièrement associé, mais plutôt de l'actualité comme telle, de certains événements aujourd'hui qui nous requièrent, qui requièrent aussi, pour lesquels je ne suis pas le seul à avoir envie d'avoir votre éclairage, l'actualité de certains thèmes sur lesquels on va revenir. Mais d'abord, je ne sais pas, en tant qu'historien, professeur d'histoire, comment est-ce que vous envisagez l'actualité, la question des événements et la sollicitation de l'histoire, le rôle de l'historien? Est-ce que vous pensez que vous avez un certain rapport plus critique que les autres, une sorte de tout de suite de profondeur historique face à l'actualité? Ou est-ce qu'il vous arrive aussi d'être saisi par elle, d'être ébranlé par l'événement, tout à coup en vous dessaisissant même de cette expertise historique, de ce savoir historien?
Oui, en tant qu'historien, je ne me situe pas en surplomb par rapport au monde dans une position omnisciente. Et surtout, je crois qu'il faut, quand on est historien, se laisser surprendre. Le danger, entre guillemets, de l'historien, c'est d'enchasser le nouveau dans une continuité, finalement, qui l'amène généralement à conclure qu'il n'y a rien de nouveau, précisément, hein, que c'est la répétition avec des nuances du même dans le temps. Or, il faut précisément, je crois que c'est Hegel qui disait ça, hein, en ouvrant son journal le matin, enfin, avoir presque un coup au cœur en se demandant ce qui va se passer. Donc, rester attentif à la possibilité d'être soi-même désarçonné.
Mais alors, Pape Ndiaye, pour prendre un exemple et qui vienne de vous et non pas de ceux qui me viennent à l'esprit aussitôt, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple récent où l'événement vous a pris de court ou surpris le matin devant un journal, un écran? Aujourd'hui, c'est beaucoup les écrans ou les médias en général. L'exemple qui vous vient, comme on dit, comme ça vient?
Le Brexit.
Le Brexit.
Voilà, quelque chose qui m'a stupéfait. Je n'y croyais pas. C'est un événement qui survient et qui en même temps, bien sûr, confirme ce qui se passe actuellement dans le monde, aux États-Unis comme en Europe, c'est-à-dire la victoire ou la formation de coalitions politiques autour de thèmes identitaires, nationalistes et populistes.
Donc, pour creuser un peu cet exemple, Pape Ndiaye, donc le Brexit, c'est un événement au fond qu'on craignait et qu'on attendait et qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire que d'un côté, on en parlait depuis des semaines et des mois, et d'un autre côté, il semblait en effet impossible par rapport à un certain type de passé, justement, la construction européenne, le nombre de fois où on est passé tout à côté d'une crise majeure et sans y tomber vraiment. Et donc, d'une certaine manière, qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui fait que, malgré cette préparation, ce fait que l'événement ne vient pas de nulle part, qu'il y a une profondeur historique et que vous la connaissiez évidemment, qu'est-ce qui fait qu'il vous a quand même profondément déstabilisé? Parce qu'aussitôt, vous l'analysez, vous dites il y avait des forces politiques, ceci, cela. Mais l'événement lui-même, quand il est apparu le matin sur votre tablette, disons, qu'est-ce qui fait qu'il vous a sidéré comme ça, à votre avis?
Il m'a sidéré et pourtant, vous avez raison de dire qu'il était vraisemblable et même relativement plausible.
En tout cas, l'objet des conversations, voilà, il était omniprésent déjà.
Il était omniprésent et la possibilité que le Brexit gagne était envisagée plusieurs jours avant. Donc ce qui m'a surpris, ça n'est pas justement l'absolue surprise du résultat. Au fond, c'est plutôt la trajectoire historique dans laquelle la Grande-Bretagne s'engage désormais. Et au fond, ça, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pas simplement l'annonce de l'événement, mais c'est ce que l'événement ouvre comme possible pour le futur. Et c'est ça qui m'a glacé d'une certaine manière, a ouvert comme une forme d'abîme sous mes pas, car on sent bien qu'il s'est passé quelque chose de très important pour l'Europe en 2016.
Oui, donc l'événement, c'est pas seulement un instant donné avec un contenu assignable. Par exemple, la Grande-Bretagne a voté non, a voté pour sortir de l'Europe, disons. Mais c'est plutôt, il y a événement quand il y a plutôt quelque chose qui est lourd de beaucoup de dimensions encore confuses, mais qui vont porter loin et qui déjà ont une signification historique. Et j'ai été frappé, Papa Ndiaye, que immédiatement, et j'ai eu la même impression d'ailleurs, le même matin, immédiatement, ce que vous dites, c'est que c'est surtout les discours xénophobes, une dimension plutôt morale, sociale, politique, très générale, plutôt que l'Europe comme telle, finalement, plutôt que l'objet immédiat de l'événement. Donc, c'est plutôt ces dimensions cachées qui vous ont frappé, cette lourdeur de l'événement, plutôt que
cette lourdeur et cette manière de sortir, au fond, non pas d'un chemin tout tracé, l'Europe est tout sauf un chemin tout tracé, mais de s'engager dans quelque chose d'inconnu, et un inconnu qui, me semble-t-il, ouvre à nouveau un horizon de possible que les grands accords de l'après-guerre avaient quand même restreint. C'est-à-dire qu'on s'est dit, au fond, l'après-guerre, les décolonisations, l'Europe, voilà une manière de s'engager dans une nouvelle phase de l'histoire. La sortie de l'Europe, c'est à nouveau être précipité dans le grand large, d'une certaine façon, dans des grands courants qui, sans être complètement absent, bien entendu, du continent européen, ne serait-ce que par ce qui se passe au Proche-Orient, par exemple, semblait quand même relativement éloigné.
Si vous décriviez ces courants, c'est possible, Papa Ndiaye, dans lesquels nous sommes replongés, qui étaient là mais qui n'étaient pas dominants, disons, c'est comme s'il y avait des courants, mais tout à coup, on se trouve pris dans un d'entre eux. Quels sont ceux que vous décririez tout de suite les plus dangereux, les plus surprenants, justement ?
Les courants de l'extrême droite.
Tout simplement, pour vous, le Brexit, c'est aussi ça.
Oui, et la possibilité que les démocraties, si anciennes, si installées, la Grande-Bretagne, c'est un vieux pays où la démocratie est installée depuis longtemps, que cela n'est pas acquis. Et que, au fond, en dépit de la solidité des institutions politiques, nous sommes à nouveau, me semble-t-il, dans une période de tempête qui se manifeste également du côté des États-Unis, bien sûr, avec le phénomène Trump.
Alors, on va venir aux États-Unis avec Trump, avec cet étrange contraste sidérant que Trump soit élu ou non entre Obama, qui a incarné quelque chose de si opposé pendant 8 ans, et puis la possibilité même de Trump. Mais pour revenir au Brexit, à l'événement que vous avez évoqué comme exemple, comme ça, de manière intuitive, on pourrait aussi vous répondre, et je crois que c'est un enjeu crucial de notre temps. En effet, il y a quelque chose qui nous semble antidémocratique dedans, une menace lourde pour la démocratie, avec des thèmes d'exclusion, des thèmes de repli, des thèmes guerriers. Et en même temps, c'est un événement démocratique, c'est un référendum, c'est un vote. Et on a l'impression que les antidémocrates d'aujourd'hui revendiquent la démocratie encore plus que les démocrates, se servent des élections, se servent de la liberté de parole, se servent pour lever des tabous, pour menacer, proférer des insultes, appeler à la discrimination au nom de la démocratie. Comment est-ce que vous analysez cette étrange perversion ? Les totalitaires des années 30, au moins, étaient clairement antidémocrates.
Les totalitaires et les extrémistes de droite de jadis étaient conséquents, d'une certaine manière, puisque leur
ils
principe...
Ils ne se disaient pas républicains.
Voilà, ils ne se disaient pas républicains. Ils ne jouaient pas la comédie des élections, ou alors d'une manière parfaitement cynique, en expliquant ce qu'ils feraient après. Aujourd'hui, c'est différent. On est en effet dans un âge où toutes les forces se réclament, peu ou prou, des mêmes références démocratiques et républicaines dans le cas français et dans bien d'autres cas. Donc il y a quelque chose là qui est évidemment très contourné, très pervers. On l'observe aussi d'une manière générale dans toutes les extrêmes droites européennes qui se réclament de la démocratie, qui n'ont que le mot de république à la bouche, de laïcité, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'évidemment, d'éminemment pervers, qui signe en même temps, paradoxalement aussi, une forme d'installation, mais relativement fragile, je pense, quand même, des principes démocratiques, puisque cela, ces principes semblent rassembler tout le monde, mais de façon tout à fait fragile.
Mais alors, quel serait le critère, Papa Ndiaye, intuitivement, comme ça, avant de venir aux questions qui, aussi pour lesquelles vous êtes sollicité souvent, on a envie de vous entendre sur tout, mais aussi sur ces questions-là, le racisme, l'Amérique, les discriminations en Europe et en France même. Quel serait le critère, donc, Papa Ndiaye, pour distinguer le vrai discours démocratique du faux, c'est-à-dire l'original et la copie ou la caricature grimaçante et le visage réel. Comment est-ce qu'on peut distinguer celui qui se réclame de la démocratie pour la trahir et celui qui s'en réclame pour la faire respecter?
La frontière est évidemment une frontière floue. Les critères sont des critères d'appréciation, me semble-t-il, non point seulement du respect de la démocratie dans sa dimension formelle, le résultat des élections, le respect de la séparation des pouvoirs, par exemple, mais au-delà de cela, dans l'expression d'un certain nombre de principes qui sont des principes démocratiques relativement à la société et pas simplement au fonctionnement de l'État. Est-ce que l'on accepte le fonctionnement d'une société civile libre, organisée, avec ses myriades d'associations, avec l'aspect aussi conflictuel et parfois confus même de la démocratie? La démocratie se nourrit de débats. Il me semble que les partis politiques qui singent les principes démocratiques, en réalité, veulent taire les débats et ont une conception très verticale du pouvoir, un pouvoir qui va de haut en bas, en quelque sorte, ce qui, justement, les distingue, me semble-t-il, des partis pour qui la démocratie est, en quelque sorte, une finalité.
Et donc, par exemple, quand on veut une Grande-Bretagne hors de l'Europe, une Grande-Bretagne sans migrants, une Grande-Bretagne identitaire, une Grande-Bretagne qui peu ou prou renonce à ce qui faisait aussi son paysage, c'est-à-dire sa diversité, qui semblait plutôt plus pacifique qu'en France, on tombe dans cette antidémocratie pseudo-démocratique, Papa Ndiaye.
Et on en a quelques signes actuellement avec... à l'évidence, dans ce pays, un regain des expressions xénophobes. Un Polonais a été tué il y a quelques semaines. Cela se manifeste de façon très, très visible dans l'espace public de la Grande-Bretagne. Mes amis en Grande-Bretagne ont noté le changement très, très vif. En l'espace de quelques semaines, il s'est passé quelque chose. Ça ne signifie pas que la société britannique n'ait pas de ressources. Elle a des ressources démocratiques très, très puissantes, bien entendu, mais ces ressources-là ont quand même enregistré une défaite extrêmement lourde, me semble-t-il, avec le Brexit.
Donc vous diriez finalement, là aussi, en tant qu'historien ou même en tant que citoyen, qu'il y a quand même eu dans cet événement le risque, en tout cas, d'un tournant historique, s'il n'y en a pas d'autres qui viennent l'infirmer, le déformer, enfin le renverser, s'y opposer au contraire, s'il y en avait d'autres qui viendraient l'aggraver encore.
Oui, qui viendraient l'aggraver à l'échelle européenne. La victoire, la possibilité d'une victoire de Marine Le Pen, par exemple, à l'élection présidentielle, n'est pas vraisemblable. Enfin, ou en tout cas, elle n'est pas la plus probable, mais elle n'est pas non plus complètement invraisemblable. De même qu'en Europe centrale, en Hongrie, en Pologne, des régimes autoritaires extrêmement durs liment les principes démocratiques. Voyons le cas de la Hongrie, qui pourtant est membre à part entière de l'Union européenne, et qui... de fait, comme le voisin russe, d'une certaine façon, a aboli la réalité de la démocratie pour n'en conserver que des aspects formels, des élections manipulées et une presse aux ordres.
Alors je crois, Papa Ndiaye, là aussi pour nous rapprocher d'un certain nombre de questions brûlantes, déjà celles qu'on vient d'aborder le son, mais face à ça, il y a évidemment plusieurs discours possibles. Il y a le discours des principes formels, mais alors vraiment respecter absolument la démocratie comme respect de tout le monde, ces principes mis en action. Mais il y a aussi l'idée que pour résister à ce repli, à ce refus, il faut accepter vraiment les questions, j'allais dire, qui fâchent dans les démocraties occidentales de manière très concrète, très historique. Accepter le fait qu'il y a eu des discriminations, qu'il y en a encore, les nommer. les nommer comme racisme face à tel ou tel type de différence visible, comme on dit, ou face à tel type de communauté ethnique ou de d'appartenance religieuse, ou bien le sexisme, le genre, comme on dit aussi, voir les distinctions sociales, tout simplement. Et au fond, finalement, comment articuler cette résistance par l'universel et cette résistance par la reconnaissance à la fois des diversités, mais surtout des violences contre ces diversités. Et c'est très difficile. On reproche à ceux qui affrontent cette reconnaissance d'être du côté de la culpabilisation, d'être du côté du négatif, alors qu'ils ont plutôt l'impression, il me semble, d'être plutôt du côté de la lutte contre le négatif et donc d'une forme de positivité concrète.
Oui, on peut, à la suite de John Scott, parler d'une forme de paradoxe minoritaire, au sens où on peut noter du côté de groupes que j'appelle des minorités au sens politique et juridique du terme, pas au sens démographique du terme.
Oui, pardon de vous interrompre, Papaniel, mais le sous-titre de votre livre que je citais tout à l'heure, La condition noire, c'est une minorité française.
Voilà.
Un sous-titre admirable.
Une minorité d'un groupe qui, subit des formes de violence réelle et symbolique.
Mais française néanmoins, et française au sens très fort du terme. C'est pour ça que j'aime
très fort du terme,
c'est pas seulement une minorité en France, mais une minorité pleinement française.
Pleinement française.
Et peut-être une France qui se définit justement plus par ses minorités que sans
et,
elle, en tout cas
et,
pas.
Et d'une minorité qui prend au sérieux les principes qui sont les principes républicains que l'on entend par ailleurs. Donc par paradoxe, on entend d'un côté une demande qui est une demande d'égalité réelle, pour reprendre les titres d'ailleurs d'un secrétariat d'État qui a été prestement créé et aussi prestement aboli en France.
J'avais oublié.
Secrétariat d'État à l'égalité réelle. Vous vous souvenez pas, mais
non,
ça a été très discret.
C'était en quelles années
C'était il y a quelques mois.
D'accord.
Que cela a été fait, mais ça a été en effet météorique.
Pardon, donc, vraiment, d'un côté, c'est vraiment cette mémoire courte dont je témoigne, et je suis peut-être pas le seul, quand même significative, Avaniaï, le fait que c'est des tentatives rhétoriques et non pas des changements de fond.
Mais les philosophes, cher Frédéric Vamps, ont peut-être besoin de distance par rapport à l'écume qui passe.
Non, je crois surtout que c'est l'écume qui est responsable, en l'occurrence. Elle s'est pas imprimée dans nos esprits, et l'égalité réelle a vite disparu de la politique réelle.
Voilà. Donc une demande d'égalité, ce qui signifie une lutte conséquente contre ce qui fait obstacle à l'égalité, des formes de discrimination dans l'accès au marché du travail, par exemple. On en parle beaucoup puisque un rapport récent vient confirmer ce qu'on devine, ce qu'on sait depuis longtemps. Et puis d'un autre côté, c'est ça le paradoxe, c'est aussi une demande de visibilité, une demande par laquelle les groupes veulent pouvoir exprimer des formes de différenciation culturelle, éventuellement religieuse, sans que cela soit vécu comme une honte ou comme un obstacle à la fameuse assimilation dont certains hommes politiques en ce moment nous parlent tant. Et donc, il s'agit d'être à la fois visible et invisible. Comment être à la fois visible du point de vue de sa culture? Comment, disait Césaire, pouvoir parler la langue de sa grand-mère sans que le maître d'école vous tape sur les doigts? Il faisait allusion au créole, bien entendu, qui lui était proche d'une certaine façon, qui était interdit à l'école, comme d'ailleurs des langues régionales françaises.
Oui, comme les petits patois, comme on dit, les petites patries.
Voilà, qui étaient vécues comme des pôles de résistance à la République, au fond, et puis à la création d'une cohésion nationale. Et puis, en même temps, bien entendu, une demande qui est une demande de lutte contre ce qui fait obstacle à l'égalité dans la vie concrète des gens et qui attend et qui pèse tant et de façon si lourde pour des millions de nos compatriotes.
Mais justement, Papendiaï, cette tension entre ces deux résistances, finalement, qui peut produire un conflit entre elles, cette résistance par l'universel et cette résistance par la visibilité et par l'affirmation, est-ce que elles entrent en tension? Et on voit bien qu'en France, en particulier sur la question noire, mais sur d'autres aussi, c'est très tendu. Est-ce qu'elles n'ont pas quand même comme point commun, je dirais, comme un adversaire commun, qui est la discrimination? C'est-à-dire, au fond, lutter contre la discrimination est le point commun entre l'affirmation de l'universel, vous ne pouvez pas nous discriminer parce que nous sommes tous égaux, et en même temps, c'est l'affirmation aussi de la différence, vous ne pouvez pas nous discriminer parce que vous me faites violence à moi, vous établissez une hiérarchie, aussi entre le noir et le blanc, le juif, l'arabe et le français, et le catholique, pardon, cet lapsus aussi assez révélateur, l'homme et la femme, ou le, donc, est-ce que le point commun entre ces deux résistances démocratiques, ça n'est pas justement l'adversaire qui reste la discrimination ?
Je ne suis pas sûr que ce soit le point commun. Je pense que ce sont deux questions qui sont à la fois parallèles, mais que l'on peut penser séparément. On peut très bien avoir un discours républicaniste classique qui fasse de la lutte contre les discriminations une priorité politique.
J'espère bien, d'ailleurs.
Et on peut l'espérer. Et qui, en même temps, parallèlement à cela, disent... Que les différences ou l'expression de différences dans l'espace public doivent être abolies, que cette, la question de la reconnaissance des différences est une question qui est en quelque sorte fait presque obstacle à une lutte conséquente contre les discriminations. Oui, donc là, c'est la position du démocrate hein, vu par Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire tout le démocrate que Sartre décrit dans son livre sur la question juive, c'est celui qui est tellement désireux d'abolir toute forme d'antisémitisme, en l'occurrence de violence réelle et symbolique, qu'il en oublie au passage la reconnaissance d'une différence. Il nie même la différence parce qu'elle lui semble faire obstacle justement à la création d'une communauté citoyenne.
Oui, j'entends bien, Pape Ndiaye, que les deux vont de nouveau diverger, les deux tendances vont même parfois s'opposer, comme un peu déjà chez Sartre, et on va y revenir, et aujourd'hui dans des groupes qui ont des positions opposées, mais au départ, est-ce qu'elles n'ont pas quand même ce point commun ? C'est-à-dire le républicain universaliste qui nie les différences le fait quand même contre les discriminations, et il pense que c'est une mauvaise manière de lutter contre elles que d'affirmer des différences. Et inversement, ceux qu'on appelle parfois des différentialistes vont dire la bonne manière, c'est pas du tout un universel abstrait, mais c'est quand même contre le même adversaire. Est-ce qu'au départ, quand même, ça n'est pas la violence discriminatoire qui les unit et qui, au fond, définit les dangers d'aujourd'hui, le point commun face à ceux qui affirment, qui revendiquent les discriminations et qui, pour le coup, reviennent aujourd'hui avec sans tabou, décomplexé, comme
c'est juste sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle du point de départ.
Point de
en
départ,
effet,
juste
il y a
le point de
chose.
Départ. Voilà. Le point de départ critique.
Mais les trajectoires ensuite peuvent être des trajectoires divergentes ou en tout cas relativement différentes. Mais le point de départ critique me semble être commun en effet. I could try, say I'm sorry, but that won't be quite enough. To let you know pain that I feel, and it just won't let up. Oh, it feels like the sky is falling and the clouds are closing in.
Bobby Womack, choisi par Pape Ndiaye. Pape Ndiaye, vous avez donc choisi ce chanteur américain récemment décédé. Vous êtes spécialiste de l'histoire des États-Unis. Comment est-ce que vous entendez sa chanson aujourd'hui, sa musique aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes inquiet pour les États-Unis, comme vous avez été sidéré par le Brexit, Pape Ndiaye ?
Inquiet pour les États-Unis, oui, au vu de ce qui menace, c'est-à-dire l'élection de Trump le 8 novembre prochain. Bobby Womack, qui chante cette chanson quelques mois peut-être avant de mourir, porte un regard finalement assez désabusé sur son pays. C'est une chanson très sépulcrale qui, au fond, me semble être assez en phase avec... l'atmosphère sociale et politique générale du pays aujourd'hui.
La question noire, je ne sais pas si vous la nommez comme ça d'ailleurs, ce terme même de question mériterait d'être interrogé. Sartre avait justement mis des guillemets en quelque sorte à cet terme en appelant son livre « Réflexion sur la question juive » et finalement il l'avait renversé, c'est-à-dire que pour lui, ce qu'on appelait la question juive, c'était une manière d'être déjà dans l'antisémitisme, de dire il y avait une question à régler et au fond... Son problème, il est passé de la question juive à la question de l'antisémitisme, hein, d'une certaine façon. Donc je ne sais pas si vous parlez de question noire, peut-être vous pourrez dire un mot, mais disons, le racisme, la discrimination, et en particulier avec cette histoire longue de l'esclavage aux États-Unis, est-ce que ça n'est pas le cœur du problème des États-Unis, le problème caché que l'élection d'Obama a révélé en partie, mais peut-être aussi en partie à nouveau masqué, et que le risque porté par le discours de Trump vient de nouveau mettre au premier plan?
Oui, on a cru... au fond, avec le mouvement pour les droits civiques, avec les grands changements de la société américaine depuis les années 70, le multiculturalisme, les changements aussi démographiques avec la migration venue d'Amérique latine et puis d'Asie, que la société américaine s'était engagée de manière définitive dans une voie qui est une voie de tolérance, d'ouverture sur le monde. Ce faisant, on a oublié, on a négligé des résistances très très fortes qui étaient évidemment bien visibles politiquement dans les années 60, mais qui n'ont pas disparu pour autant. Qu'il y a des le parti républicain a viré vers la droite depuis plus de 20 ans. Trump en est évidemment un exemple un peu extravagant, d'ailleurs dans son positionnement politique, qui montre que la société américaine n'est pas une société aussi multiculturelle et ouverte qu'on le dit. Une partie de cette société, ce qu'on appelle souvent la société atlantique, hein, celle qui est dominante sur les côtes, la société océanique plutôt, sur les côtes californiennes ou la côte est, mais qu'il y a aussi une société plus continentale, beaucoup plus refermée et surtout qui voit les phénomènes de mondialisation comme la cause principale des difficultés bien réelles que cette population rencontre avec la disparition des emplois industriels bien payés qui ont caractériser la société fordiste américaine au XXe siècle.
Mais Papa Ndiaye, donc est-ce que vous diriez, j'insiste un peu lourdement sur cette question des discriminations, mais est-ce que vous diriez donc que c'est maintenant le cœur du problème? C'est-à-dire qu'à un moment, la droite américaine était centrée sur la critique du gouvernement. Ronald Reagan, c'était le trop d'État et la dérégulation. Et d'une certaine manière, ça a eu des effets encore jusqu'à aujourd'hui, donc au moins 30 ans d'effets. Ensuite, on a eu le conservatisme religieux avec un certain nombre de thèmes, et le Parti républicain, c'était quand même aussi ses valeurs familiales, comme ça. Est-ce que vous diriez qu'on est revenu par-delà tous ces thèmes qui ont eu des effets mondiaux, finalement, à vraiment la question raciale?
C'est une question qui a pris une force, une nouvelle force depuis quelques années.
C'est quand même inattendu, hein, justement, sous le signe d'Obama. C'est
tout à fait, et qui vient en quelque sorte conclure son deuxième mandat politique de manière... inattendu, lui qui pensait pouvoir l'éviter finalement, c'est comme ça qu'il avait théorisé les choses en 2008, donc un retour d'une question, mais une question qui n'avait pas disparu bien entendu, car la société américaine demeure comme elle l'était jadis, mais dans des proportions moindres et de manière plus moins lisible, elle demeure fondamentalement structurée par des inégalités qui sont des inégalités de classe, bien entendu, qui se sont formidablement accrues d'ailleurs depuis 30 ans, mais aussi des inégalités de race, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des inégalités entre la population blanche et la population non blanche, qui sont extrêmement criantes et que l'on voit dans l'éducation, la justice, bien entendu, les relations avec la police, dans les domaines économiques en général. Bref, les États-Unis restent profondément structurés par une histoire qui, comme vous le rappeliez il y a un instant, est celle de l'esclavage, mais aussi de la ségrégation qui imprime son talon de fer sur le XXe siècle.
Alors pour maintenant passer un peu aux manières d'y résister, est-ce qu'il faut donc... face à ce danger qui revient, qui peut être, je dirais, la mère de tous les dangers, le cœur de tous les dangers, finalement, tout mouvement antidémocratique étant d'abord discriminant, enfin fondé sur les discriminations. Comment est-ce qu'il faut le nommer? Comment est-ce qu'il faut nommer le problème? Je suis très frappé aux États-Unis par ce mouvement que vous connaissez sûrement très bien, dont le slogan me semble très fort, Black Lives Matter, les vies noires comptent, pour traduire un peu comme on traduit les livres de Judith Butler en particulier, c'est-à-dire les vies comptent, faire que chaque vie compte, que chaque deuil puisse compter, être reconnu. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière? Est-ce que vous pensez que c'est une manière de dire à la fois l'universel et le particulier, parce que finalement nous sommes tous des êtres vivants qui ont besoin avons besoin de reconnaissance, et en même temps il y a effectivement toutes les vies ne valent pas politiquement de la même façon, il faut aussi reconnaître cette discrimination.
Oui, c'est un mouvement qui a une force réelle.
Est-ce que vous pouvez en rappeler un peu l'histoire, que d'ailleurs je ne connais pas bien?
Qui naît globalement autour de 2012-2013 à la suite du meurtre d'un jeune afro-américain, Trayvon Martin, en Floride, par un vigile qui ensuite a été condamné de façon extrêmement légère. Il a été acquitté. Et puis qui a en quelque sorte inauguré une série d'événements qui ont reçu une large publicité, qui font l'ordinaire d'ailleurs du monde noir américain depuis un siècle. Les relations avec la police sont au centre des préoccupations. Les mères noires aux États-Unis disent à leurs enfants, particulièrement à leurs enfants, aux garçons, de faire très attention lorsque ils voient un policier, de marcher lentement. Il y a tout un...
Oui, d'ailleurs, Barack Obama lui-même a dit, au moment de cet assassinat, il a dit, ça aurait pu être mon fils.
Et il l'a dit de façon très, 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 très juste. Martin Luther King lui-même, dans son fameux discours I Have a Dream, parlait des violences policières. Donc ça, c'est quelque chose qui a une longue histoire. La différence depuis quelques années, et c'est ça qui a permis au mouvement Black Lives Matter d'émerger avec tant de force, ce sont les vidéos, en fait. C'est le fait que les dénégations qui étaient si courantes avant et qui permettaient aux policiers d'expliquer que celui qui était mort avait manifesté des intentions violentes, que cela se trouvait d'un seul coup mis en échec par l'image. On l'a vu aussi en 1992 avec l'affaire Rodney King, une affaire extrêmement banale.
Un tabassage
qui arrive tout le temps aux États-Unis, sauf que là, ça a été filmé. Puis aujourd'hui, avec les smartphones, etc., évidemment, tout ça est filmé beaucoup plus facilement. Et donc, il y avait une force d'évidence qui empêchait, au fond, les policiers de se lancer dans leurs habituelles entreprises de dénégation. Il y avait quelque chose qui est né à partir de là. De même qu'au fond, le mouvement pour les droits civiques, à partir des années 50, doit beaucoup à la télévision. Et Martin Luther King jouait beaucoup de l'arme, en quelque sorte, de la télévision pour montrer aux Américains ce qui se passait dans le sud des États-Unis. Et bien là, au fond, aujourd'hui, c'est un mouvement qui est le fruit des réseaux sociaux, parce que son existence est quand même, c'est sa faiblesse, plus virtuelle que réelle du point de vue de son organisation pratique, et également des smartphones. Donc il faut voir ce mouvement comme étant dans sa nouveauté, pour reprendre notre conversation de tout à l'heure, et en même temps dans une inscription séculaire qui est celle d'une très grande méfiance de la population noire à l'égard des agissements de la police.
Et alors, comment est-ce que vous décririez aux États-Unis, Pape Ndiaye, ce risque, au fond, enfin, c'est moi qui l'appelle un risque, hein, vous serez peut-être pas d'accord, ce risque de clivage entre les deux extrêmes de position qui finalement devraient ou pourraient converger, c'est-à-dire un risque d'un républicanisme abstrait qui, au fond, reproduisent des violences en disant bon, il n'y a pas de raison d'être particulièrement inquiet pour les Noirs, les Juifs, les femmes, les handicapés, ou parce qu'on est tous universels, on est tous identiques. Et d'un autre côté, un risque de dire il faut vraiment se défendre, nous, avec un nous qui est justement celui qui est discriminé, mais qui du coup renoncerait à l'universel. Nous, les... Et avec l'adjectif qui complète.
Oui.
Est-ce qu'il y a aux États-Unis le même risque, finalement, de clivage des adversaires, pourtant, d'un même ennemi commun?
Je ne crois pas. Il me semble que ce que vous décrivez là, c'est plutôt la situation française. Où le républicanisme abstrait a des positions extrêmement fortes et même, à certains égards, dominant d'un point de vue politique. Aux États-Unis, on a plutôt installé de manière centrale l'idée que l'organisation des différentes communautés sous une forme associative et sous une forme ouverte n'est pas une injure faite à l'universalisme, mais au contraire une manière de l'incarner, une manière d'avoir aussi une force, une effectivité pratique de mobilisation, ce qui n'exclut pas bien entendu les alliances entre les différents groupes. Et cela est quelque chose qui est tout à fait admis et qui ne fait pas l'objet, sauf de la part des ultra-conservateurs. Mais ceux-là, de toute façon, sont opposés à la finalité même des actions qui sont entreprises. Cela ne fait pas l'objet des mêmes formes de méfiance et de délégitimation que ce qu'on observe en France.
Alors, donc, finalement, c'est peut-être d'ailleurs la force de cet adversaire aux États-Unis, le retour de cet ultra-conservatisme qui fait que ceux qui y résistent ne s'opposent peut-être pas tant qu'en France aujourd'hui. Alors, venons justement à la France. Comment se fait-il qu'en France, il y ait maintenant ce risque? Comment se fait-il, en effet, que face au retour du racisme, il faut le nommer lui aussi par son nom, qui sidère nos générations, en tout cas, qui est par sa décomplexion, comment se fait-il qu'il y ait ce risque, justement, de clivage et ce clivage interne qui peut prendre des formes si déconcertantes au premier abord? Comment est-ce que vous expliquez ça, Papandia, à la fois en tant que citoyen, qu'historien, qu'écrivain, que...
Je vois les choses au regard d'une histoire un peu longue, en quelque sorte, qui est celle de grandes associations, qui étaient les grandes associations historiques de lutte contre toutes les formes de racisme, mais aussi d'antisémitisme. En France, la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, le MRAP, la LICRA, ces vieilles associations, et SOS Racisme à partir des années 1980. Et du fait que ces associations-là, aussi importantes et prestigieuses soient-elles, ont dû essuyer des critiques fortes et parfois légitimes. D'abord, une critique portant sur, au fond, un entre-soi dans des organisations qui prétendent représenter des problèmes, des doléances, mais qui ont du mal à attirer à elles, justement, une partie des groupes qui sont, justement, les groupes discriminés. C'est tout à fait...
Et alors, ces associations, pourquoi est-ce qu'elles n'ont plus eu prise sur les victimes réelles de ces discriminations? Pourquoi est-ce qu'elles s'en sont coupées, finalement? C'est parce qu'elles ont porté leur combat au mauvais endroit, sur des principes abstraits, et non pas sur des violations concrètes, des discriminations dans l'emploi, dans le monde, dans la société en général
ou... Absolument. Si on prend le cas d'une association comme SOS Racisme, on voit bien comment l'adversaire principal de cette association a été le Front National, et le racisme à front de taureau, pourrait-on dire, dans les années 80, et en même temps, comment, parallèlement à cela, on fermait les yeux où on négligeait une réalité finalement plus lourde pour les personnes concernées, qui est celle des discriminations, le fait de ne pas trouver de travail, de ne pas trouver de logement.
Les contrôles aux faciès, la discrimination au patronyme.
C'est cela qui pèse plus dans la vie quotidienne que les insultes ou que l'essor du Front National. Et donc beaucoup de gens ont commencé à dire, en particulier dans les années 90, eh bien écoutez, le Front National, oui, il faut se mobiliser, le racisme violent, oui, c'est très important, il faut se mobiliser, mais notre vie quotidienne, elle importe, et vous nous représentez mal. On pourrait ajouter enfin que ces vieilles associations sont des associations qui ne prétendaient pas forcément représenter les personnes, représenter les problèmes, oui, mais avec une vision un peu élitiste, des intellectuels, des classes sociales plutôt privilégiées, qui se sont trouvées un peu prises en équerre face à l'émergence de nouveaux groupes de population, en particulier de jeunes nés en France, non pas leurs parents on pouvait mettre le racisme sur le compte d'un accent ou d'une mauvaise adaptation à la vie française, mais les enfants nés en France, pourvus de diplômes, évidemment, se sont heurtés à des difficultés qui ne pouvaient être expliquées par des faiblesses, qui auraient été des faiblesses dans la présentation de soi ou dans la langue. Donc, il y a quelque chose là qui me semble très très important, qui a marginalisé en quelque sorte ces grandes associations et permis l'émergence de groupes qui sont des groupes plus restreints, ayant une plus emprise en quelque sorte sur les réalités à la fois matérielles, symboliques et presque intimes, vécu par les personnes en question.
Je crois que ce que vous rappelez est très important, Papandia, le fait que à la fois l'histoire que vous rappelez, et donc on a besoin de l'histoire, l'histoire de ces associations et ce sur quoi elles ont buté, c'est-à-dire au fond cette impossibilité de voir que dans la discrimination minime, il y a déjà le racisme extrême et que la lutte contre le racisme extrême doit passer par cette lutte contre les discriminations visibles, quotidiennes, le patronyme, la couleur de peau, le faciès, etc. Et en même temps, jusqu'où faut-il aller dans le concret, c'est-à-dire au fond, là je voudrais dire un mot des conflits qui divisent la société française. Alors peut-être c'est un peu élitiste, parfois c'est dans le monde universitaire, mais quand on se demande si dans les congrès féministes il y a place pour les hommes, parce que précisément ils porteraient un discours universel, mais non pas ils ne sont pas victimes réelles, les vraies victimes, quand dans des séminaires sur le racisme contre les Noirs, on refuse la mixité, est-ce que ce sont des gestes extrêmes qui ont une valeur symbolique pour tout le monde, ou bien est-ce que ce sont des vrais risques de coupure entre ceux qui prônent l'universel, la mixité, le métissage, et puis finalement jusque dans des tâches concrètes, et ceux qui disent il faut vraiment maintenant affirmer des ruptures pour lutter contre des violences.
Ce sont des stratégies risquées qui s'inscrivent tout de même, rappelons-le, dans une histoire qui est celle, depuis les années 60, de l'organisation des groupes minoritaires où cette question s'est posée. Faut-il admettre des blancs dans les organisations noires? Les Black Panthers ont répondu par la négative. Faut-il admettre des hommes dans les organisations féministes? Voilà une question importante des années 70. Des hétéros dans les organisations...
Donc c'est pas nouveau finalement.
C'est une longue histoire qui se pose à chaque fois.
C'est un symptôme. En même temps, quand ça arrive, c'est qu'il y a un problème.
Bien sûr, c'est un problème qui est aussi le symptôme de discrimination vécue, de formes de violence subie qui peuvent se transformer en une réaction, en quelque sorte, de solidarité avec celles et ceux dont on pense que le stigmate est semblable et avec qui on a confiance. Donc, c'est une histoire qui est une histoire longue. En même temps,
qu'est-ce que vous dites, vous, dans ces cas-là, quelle est votre parole?
Ma position, c'est que ces organisations, particulièrement en France d'ailleurs, où elles se heurtent au républicanisme abstrait, sont des organisations plutôt faibles, qui disposent de moyens, de ressources, qui sont des ressources très limitées. Mmh. Et donc, se priver en quelque sorte d'alliés en fermant la porte à celles et ceux de bonne composition, qui au nom justement de principes de solidarité seraient prêts à aider, je trouve ça très dommage. Et cela crée également un deuxième front. Il y a le front contre les racistes, contre l'extrême droite, et puis on se crée en quelque sorte, non pas des ennemis, mais en tout cas des gens qui peuvent vous tourner le dos, qui pourraient être vos alliés. Il me semble qu'on a assez à faire avec les ennemis de droite et d'extrême droite pour ne pas s'en créer de nouveau. Mais je peux aussi comprendre cette réaction au vu d'expériences violentes partagées et également d'une histoire qui, depuis un demi-siècle, est scandé par des débats de cette nature.
Malheureusement, on arrive à la dernière question, que j'aurais beaucoup envie de continuer bien longtemps cette conversation, mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut reconstruire justement cette association d'associations et faire majorité contre les discriminations? Contre la discrimination, contre les minorités.
Oui, par les alliances. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il faille revenir nécessairement à un modèle ancien qui serait celui de la grande association généraliste abstraite qui tend à noyer les particularités dans un grand discours qui est un discours de générosité mais qui ne s'attache pas aux spécificités. En même temps, on ne peut pas se résoudre non plus à un morcellement qui, de fait, manque d'efficacité. Donc, ce qui me semble être la voie d'alliance, comme vous le disiez tout à l'heure, entre le singulier et l'universel, ce sont des associations qui peuvent avoir leur spécificité, leur savoir-faire, en quelque sorte, leur sensibilité pour parler à celles et ceux qui sont victimes, mais qui, en même temps, travaillent de concert, qui s'allient, qui forment des alliances. C'est ce que Martin Luther King, par exemple, dans les années 60, appelait de ses voeux eux et qu'ils réussissaient à peu près, c'est la possibilité de travailler ensemble, de reconnaître des buts communs, tout en ménageant à l'intérieur des organisations des sensibilités, des différences, afin d'être efficace, parce que les différentes formes de racisme et d'antisémitisme n'ont pas la même histoire, elles n'ont pas les mêmes formes, et il convient dès lors de se mobiliser contre elles en les visant justement.
Illustrons en nous alliant ensemble la force du vivre ensemble contre les discriminations. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble de nouveau, Pape Ndiaye. Merci beaucoup de vos éclairages à la fois historiques et intimes et personnels et politiques.
Merci beaucoup.
Les discussions du soir. Pape Ndiaye, Cédric Chatelus, Claire Poinsignon, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms.